Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon et Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Le Ridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Allez, on va prendre la direction de l'Europe centrale. Ce dimanche 13 octobre, les électeurs polonais sont appelés aux urnes pour renouveler les deux chambres de leur parlement. Le PiS, Droit et Justice, le parti ultra-conservateur au pouvoir depuis 2013, est donné largement favori. Malgré des réformes controversées, le parti de Jaroslaw Kaczynski ne connaît pas la crise. Du côté de l'Autriche, les conservateurs sont arrivés en tête des élections législatives organisées fin septembre. À la suite du scandale, on s'en souvient, dit de l'Ibiza-Gate, qui avait fait exploser le gouvernement de coalition forgé avec l'extrême droite du FPE. C'est le deuxième scrutin législatif remporté par Sébastien Kurz, dont le programme ultra-conservateur rencontre lui aussi un franc succès. Depuis quelques années, la démocratie illibérale est désormais bien ancrée dans cette Europe centrale, Pologne, Autriche, mais également Hongrie, évidemment, celle de Viktor Orban, dont le parti, le Fidesz, vole de victoire en victoire depuis près d'une décennie. Alors les élections polonaises du week-end prochain ont-elles marqué une nouvelle victoire pour ce modèle de démocratie dite illibérale? Comment comprendre que ces régimes continuent de prospérer alors même qu'il participe d'un recul général des libertés? Quelles sont les racines de ce succès? Pour évoquer toutes ces questions, Jacques Krupnik est avec nous. Bonjour Jacques Krupnik.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur de recherche aux séries de Sciences Po. À vos côtés, Roman Krakowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, historien, maître de conférence à l'Université de Genève. Avant d'ouvrir ce chapitre consacré à l'Autriche, la Pologne, la Hongrie et cet enracinement en Europe centrale, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin revient de Bolivie.
Mes frères, nous sommes rassemblés dans ce qui était un lieu de domination, un lieu d'oppression, cette base militaire américaine. Mais à quoi servait cette domination? À piller nos ressources naturelles. Mais ce lieu de domination est devenu un lieu de libération du peuple bolivien. Vive le peuple bolivien uni et souverain. Vive notre processus de changement.
Bonjour David Gormezano.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, ancien correspondant en Argentine pendant plusieurs années, mais aussi au Brésil. On vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre là un extrait, Bolivie, les années et vous, qui sera diffusé demain sur France 24. Vous êtes resté donc une douzaine de jours en Bolivie. C'est un pays que vous connaissez pour l'avoir visité un certain nombre de fois lorsque vous étiez évidemment correspondant. Vous avez même, je crois, rencontré Evo Morales. Candidat à sa propre succession, Evo Morales, pour le scrutin du 20 octobre prochain. C'est donc très bientôt. Alors même qu'en 2016, il y avait eu un référendum qu'il avait perdu, référendum constitutionnel qui devait lui permettre de briguer un quatrième mandat. Il l'avait perdu et puis finalement, il se présente quand même. On va essayer de mesurer précisément ses chances de l'emporter parce qu'on va voir qu'il n'a peut-être plus l'assise qu'il a eue. Puis on essaiera peut-être de parler de l'Équateur si on a le temps, David Gormezano. D'abord, ce documentaire, il s'ouvre sur ce meeting dont on entendait un extrait à l'instant, d'Evo Morales. Un meeting dont le site, le lieu n'est pas choisi tout à fait au hasard. On est sur une ancienne base militaire. Pourquoi ce site-là et qu'est-ce que ça révèle de la stratégie d'Evo Morales dans cette campagne?
Alors, ce meeting a eu lieu au mois de mai. C'est à ce moment-là qu'il a lancé sa campagne. Et il a lieu dans son fief, dans son bastion, là où il a démarré sa carrière politique. Sa carrière politique, il l'a commencé en tant que syndicaliste, dans un syndicat de cultivateurs de coca. Et il en devient le chef à la fin des années 80. Et à la fin des années 80, au début des années 90, il y a des affrontements violents entre paysans cultivateurs de coca et les autorités boliviennes et les agents de la DEA américaine qui avaient décidé d'éradiquer la culture de la coca. Et dans cette région qui n'est pas dans les Andes, qui est dans les terres basses, vous avez beaucoup de Boliviens qui, fuyant la misère des hauts plateaux, sont venus cultiver des terres qui étaient offertes par le gouvernement. Ils ont cultivé des fruits, ils ont cultivé du riz. Et puis ils ont cultivé de la coca parce que c'était la culture la plus rentable. Et quand on a dit on éradique la coca avec des agents des États-Unis, des agents de la DEA américaine qui étaient sur le terrain, qui étaient concentrés sur cette base militaire. Il y a eu des affrontements extrêmement violents. Evo Morales a été tabassé devant les caméras. Il a été emprisonné en 1994. Il a fait une grève de la faim. Et c'est comme ça qu'il est devenu une figure connue.
Donc c'est sur cette histoire-là et sur cette opposition aux États-Unis qu'il s'appuie aujourd'hui pour faire campagne, toujours aujourd'hui.
Absolument. Le discours anti-impérialiste, il est toujours là. Il n'a pas varié d'un iota. On pourra parler de sa pratique du pouvoir après. Mais en tout cas, dans les discours, le Evo Morales de 2005, quand il a gagné sa première élection, et le Evo Morales de 2019,
Ils ne sont pas si éloignés.
Non.
Il y a une chose qui a changé quand même en 15 ans, c'est le développement économique et social du pays. Ça, on ne peut pas le nier. Vous le rappelez dans votre documentaire, un PIB qui a été multiplié par 3, un taux de pauvreté qui a été divisé par 2. Très clairement, les résultats économiques sont là. Quelle a été la recette du succès ?
La recette du succès, c'est la nationalisation des hydrocarbures, qui a eu lieu le 1er mai 2006. Symboliquement, Evo Morales s'est rendu sur un site d'extraction de gaz dans la province de Tarija, accompagné par l'armée, et a dit désormais, tout ce qui sort du sous-sol bolivien, tous les hydrocarbures, appartiennent à l'État. Et en fait, ça n'a pas été une vraie nationalisation. Il a nationalisé symboliquement, et en fait, il a démarré une négociation avec les multinationales qui exploitaient le gaz et le pétrole en Bolivie, qui a les deuxièmes réserves les plus importantes du continent. Et il a remis à plat les contrats. Et on est passé d'une répartition de 20% en faveur de l'État bolivien et 80% pour les multinationales à 80% pour l'État bolivien et 20% pour les multinationales. Et pas une seule de ces multinationales n'est partie. Tout le monde est resté en Bolivie. Et donc, peu à peu, l'État s'est retrouvé avec une rente pétrolière et gazière très importante.
Donc un bilan économique plutôt très bon.
Un cycle économique très favorable aux matières premières, qui s'est interrompu autour de 2013-2014, mais le prix du gaz a été multiplié par 6 ou 8 pendant cette période-là. Donc il a bénéficié d'un contexte économique et des décisions qu'il a prises lui-même favorables, qui lui a permis d'engager des politiques sociales très engagées, notamment il a institué un système de retraite universelle, ce qui était une révolution absolue en Bolivie, et également une politique de grands travaux, d'investissement massif dans les infrastructures. Et c'est un président de gauche, mais c'est un président très pragmatique, qui mise sur l'investissement dans l'exploration minière, dans l'exploration des hydrocarbures, dans la transformation, dans la production d'énergie. Il y a des programmes de construction de barrages. C'est un socialiste
extractiviste
et productiviste.
Développementaliste. David Gormezano, quel bilan peut-on faire s'agissant des politiques qui ont été menées vis-à-vis des indigènes ? Évidemment, on sait bien qu'il est arrivé cet homme-là grâce aux indigènes. Et il avait promis, quand il est arrivé en 2006, de leur rendre le pouvoir. Est-ce qu'il a tenu parole ? Qu'est-ce qu'il a fait précisément pour essayer de redonner du pouvoir aux indigènes ? Parce que ce qu'on découvre dans votre documentaire, c'est que visiblement aujourd'hui, ils ne le soutiennent plus tous autant que par le passé. Vous êtes par exemple allé dans une université d'El Alto, qui est une ville qui fait à peu près 100 000 habitants. On est à l'ouest de la capitale La Paz. Et très clairement, on sent bien là qu'il n'y a plus l'enthousiasme d'antan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez ces indigènes ? Et puis, vous nous direz ce qu'il a fait pour justement leur redonner ou pas le pouvoir.
Alors, les indigènes, qui sont majoritaires en Bolivie, c'est le seul pays d'Amérique latine où clairement la majorité de la population est indigène. Tout d'abord, elle a été remise à l'honneur par la nouvelle constitution. La constitution de 2009 institue un État plurinational. Et dans les symboles de l'État, on reprend des symboles qui proviennent des cultures andines. Donc ça c'est pour le côté symbolique, qui est très fort et qui est très important. Et puis le personnel politique pendant les années Evo, a été renouvelée de fond en comble. Il y a la première ministre de la justice d'Evo Morales, c'était une femme qui était analphabète jusqu'à ce qu'elle découvre le syndicalisme, qui était employée de maison et qui est devenue ministre de la justice avec ses tresses. Donc il y a eu un changement symbolique très profond. Après, quand on va à El Alto, par exemple, qui est une ville champignon, qui surplombe La Paz, qui est composé de gens qui ont quitté les campagnes, c'est le produit de l'exode rural, et qui est une ville aymara, très, très forte, qui a une identité aymara, qui est le groupe ethnique majoritaire sur les hauts plateaux des Andes, très forte. Et là, c'est un chaudron. Alors, vous avez les étudiants qui sont très en colère contre le gouvernement, c'est des étudiants qui sont majoritairement issus des classes populaires, d'origine plutôt indigène, et qui dénonçaient le fait que leur université était très mal financée, qui sont descendus dans la rue, la police a tiré, un étudiant est mort, et depuis ils sont en confrontation permanente avec le gouvernement. Il y a d'autres groupes comme ça, d'autres secteurs de la population qui proviennent de la base sociale qui a amené Evo Morales au pouvoir, qui ont fini par critiquer ses décisions, qui sont rentrés en conflit avec son gouvernement et qui souvent l'ont payé assez cher. Mais à El Alto, on découvre aussi une bourgeoisie aymara. Alors, cette bourgeoisie aymara, elle a gagné beaucoup d'argent dans le commerce, notamment en important des produits venant de Chine. Des entrepreneurs dans les transports, des propriétaires de petites mines qui gagnent beaucoup d'argent qui le dépensent et qui le montrent. Et ça, c'est tout à fait nouveau.
Essayons de revenir un peu aux racines de, sinon une rupture, en tout cas, clairement, un éloignement d'Evo Morales avec une partie, en tout cas, de sa base. Il y a peut-être un événement très particulier qui a eu lieu en Bolivie il y a quelques années maintenant, au début des années 2010, qu'on appelle le conflit du Tipnis, qui a peut-être marqué une rupture, précisément, entre Morales et son socle électoral indigène. Racontez-nous, peut-être rappelez-nous en quelques mots cet événement et ses conséquences politiques qui ont été très forte.
Alors, cette crise du Tipnis, le Tipnis est un territoire, est une réserve naturelle qui se situe dans les terres basses, dans la partie amazonienne de la Bolivie. Et en 2011, le gouvernement décide d'y construire une route. Et les communautés locales s'y opposent. Et à ce moment-là, avant d'y renoncer, parce que finalement Evo Morales renoncera à construire cette route, puis finalement réessayera de la construire, mais il y a eu une répression policière. Et ça a frappé les esprits, d'une part parce qu'elle mettait en lumière cette espèce de double langage que pouvait avoir Evo Morales sur toutes les estrades internationales, défendre la terre-mère, la Pachamama, le buen vivir, et autoriser la construction d'une route dans un territoire très préservé. Alors voilà, là il y avait un double langage qui est exposé publiquement. Et l'autre aspect, c'est que Evo Morales représente est aymara, est issu de ces groupes ethnique, linguistique des hauts plateaux des Andes, et les communautés indigènes qui se sont rebellées contre la construction de cette route sont plutôt des indigènes de la partie amazonienne. Et là, on s'est aperçu aussi qu'il y avait ceux des hauts plateaux ont l'habitude de commander, et ceux des basses terres, on leur demande d'obéir. Et ça n'est pas passé.
David Gormezano, je voudrais qu'on évoque une figure qu'on rencontre dans votre documentaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir, que moi je ne connaissais même pas. Enfin, j'avais lu évidemment son nom, c'est celle du vice-président bolivarien, mais je ne le connaissais absolument pas, Alvaro García Linera. Il a l'air d'être très important, cet homme-là, d'abord parce qu'il accompagne Morales depuis le début, depuis 2006, mais aussi parce que visiblement, il est celui qui a pensé ce concept de processus du changement, qui est le processus processus engagé par Evo Morales depuis maintenant une quinzaine d'années. Expliquez-nous en quelques mots qui est cet homme et comment précisément il a engagé ce processus de changement, comment il le voit dans le futur, parce qu'on disait tout à l'heure que Morales s'était lancé, et c'est la raison de cette réussite économique formidable du pays dans cet extractivisme outrancier, mais visiblement le projet, c'est peut-être à un moment d'arrêter avec cette philosophie-là et de revenir à un développement plus durable, toute la question étant de savoir si effectivement on peut sortir de ce modèle de développement qui a été engagé. Linera, Alvaro García Linera.
Alvaro García Linera est un personnage très très intéressant. Il a fait partie. C'est un ancien guérillero.
Vous l'avez rencontré, hein, voilà.
Oui, on l'a rencontré au mois de juillet et je l'avais rencontré également en 2005. Où il est à la fois marxiste, guérillero, il a fait de la prison dans les années 90. Et en même temps, il est sans doute celui qui a permis la victoire d'Evo Morales en 2005, parce qu'il est blanc. Il est blanc, il vient d'une grande famille bourgeoise de Cochabamba. Et sa présence aux côtés d'Evo Morales a rassuré les classes moyennes ou les classes supérieures blanches qui étaient un petit peu effrayées par Evo Morales et par sa base sociale, ce qu'on appelle les mouvements sociaux en Bolivie, très très turbulents, très violents parfois. Et il est à la fois un théoricien. Quelqu'un qui cite Gramsci, qui dit qu'il faut arriver à un niveau de développement minimal pour pouvoir ensuite s'occuper réellement de défense de l'environnement, qu'on ne peut pas faire l'impasse sur un certain développement économique, une certaine industrialisation du pays, pour pouvoir passer à une autre phase. Il rationalise un petit peu aux yeux d'un certain nombre de Boliviens qui ne sont pas forcément dans le camp d'Evo Morales, le processus de changement, les actions du gouvernement depuis 13 ans.
Dernier personnage, David Gormezano, qu'on ne peut pas quand même ne pas évoquer, c'est le principal opposant à Morales, Carlos Mesa.
Carlos Mesa.
Ancien président du pays d'ailleurs. Il a des chances de battre Morales ?
Alors ça c'est la question... si l'on en croit les sondages, mais il ne faut pas croire les sondages, il pourrait arriver en position d'atteindre le second tour. Et s'il y a un second tour, alors là...
Tout est possible ?
Tout est possible. Encore faut-il qu'il puisse atteindre le second tour, parce que la loi électorale prévoit qu'un candidat qui atteint les 40% des suffrages avec 10% d'écart avec son suivant est élu au premier tour.
Et ce qui donne l'avantage à
vu les marges vrai. D'erreur des instituts de sondage en Bolivie et puis en général en Amérique latine, Evo Morales, il est crédité de 32 à 36% des voix. Rien ne dit qu'il ne parviendra pas à atteindre les 40% et du coup, il n'y aura pas de second tour.
Il a un projet politique très différent, Carlos Mesa ?
Carlos Mesa est un homme pondéré, c'est un intellectuel, un historien. Et il reconnaît le rôle historique qu'a joué Evo Morales dans l'histoire de la Bolivie. Il nous a dit que c'est arrivé bien trop tard qu'un indigène devienne président de la Bolivie. Il ne remet pas en cause radicalement le modèle économique qu'a mis en place Evo Morales, mais il réclame une alternance. Il dénonce le culte de la personnalité. Et hier, à La Paz, s'est tenu un cabildo, une grande assemblée qui a réuni pour la première fois ses opposants qui sont très hétéroclites, très divisés entre eux. Et ce cabildo a dit qu'il n'accepterait pas un quatrième mandat d'Evo Morales. Et j'ai l'impression que depuis le mois de juillet, où nous l'avons rencontré, et maintenant... Il se positionne de façon un petit peu plus dure par rapport à Evo Morales.
Merci beaucoup, David Gormezano.
Merci à vous.
On avait dit qu'on parlerait de l'Équateur. On n'a pas réussi. Il faudra vous inviter pour le faire parce qu'effectivement, il se passe des choses très importantes, mais nul doute qu'on aura l'occasion de le faire très bientôt.
Avec grand plaisir.
Bolivie, les années Evo. Donc, un documentaire à retrouver demain sur France 24, 22h10, je dis pas de bêtises. Et la semaine suivante, sur Arte. L'heure, je me souviens plus.
18h45.
Et ben voilà, c'est fait. À voir, Bolivie, les années Evo. Merci infiniment.
Merci.
Cálida armonía, si se van mis ojos no pierdo el signo de la radiante verdad, nombro las alturas de los sonidos, entonces la vida truena.
Tourne cette page bolivienne pour prendre la direction de l'Europe centrale. On va parler de l'Autriche, de la Pologne et de la Hongrie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque le week-end prochain, les Polonais et les Polonaises sont appelés aux urnes pour renouveler le Parlement. Le parti conservateur, ultra-conservateur au pouvoir, le PiS, entend bien l'emporter, à l'instar de son dirigeant, Jarosław Kaczyński, qui n'hésite pas à se placer en défenseur de la démocratie. Écoutez.
L'opposition veut liquider la démocratie en Pologne, car dans ce cadre, ils ne peuvent pas gouverner. Ils ne peuvent dominer ni dans le domaine politique, ni dans le domaine économique, ni dans le domaine culturel. C'est ce qui s'est toujours passé.
L'opposition veut liquider la démocratie. Voilà ce que disait le dirigeant du PiS il y a quelques jours. Le parti ultra-conservateur va-t-il remporter ce scrutin? C'est en tout cas ce qui semble apparaître dans les sondages. Alors comment expliquer cet inexorable succès? On le voit en Pologne, mais on le voit aussi du côté de l'Autriche et de la Hongrie. On en parlera. Jacques Rupnik est notre invité avec Roman Krakowski. Maximo, vous êtes notre invité toutes les semaines, vous, puisque vous êtes notre partenaire du monde tous les vendredis. Marc, on va commencer avec vous. C'est vrai que depuis le début de la campagne, on a une opposition, la coalition civique qui déploie énormément d'efforts pour mobiliser, pour essayer de renverser la tendance, mais rien n'y fait. Le PiS file directement vers une victoire quasiment acquise.
Oui, alors le PiS polonais, comme bon nombre des autres partis populistes de l'Europe de l'Est, est avant tout un symptôme. Alors il est très décrié en Europe de l'Ouest, et triomphant dans ses terres avec effectivement crédité de 40% des sondages, enfin des intentions de vote, et il devrait gagner. Alors sa force, c'est la bonne santé de l'économie, mais c'est aussi une espèce de version polonaise de l'État-providence. Ça fonctionne, un nationalisme économique. Le nationalisme économique, c'est aussi celui de Viktor Orban en Hongrie, et de fait, ça marche aussi pas mal pour lui. Alors il y a le social, mais aussi l'identitaire, l'histoire. On brandit l'histoire. Le PiS met en avant la Pologne héroïque, rappelle les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Il pond une loi punissant jusqu'à 3 ans de prison ceux qui parlent d'Auschwitz ou de Treblinka comme des camps d'extermination polonais. Non, ce sont des camps d'extermination allemands en Pologne. Le scandale fut tel qu'il dut revenir en arrière sur la loi. En fait, le succès du populisme à l'Est exprime d'abord le malaise des peuples de cette autre Europe qui, 30 ans après la chute du mur, pense toujours être méprisé par un Ouest arrogant, et notamment par la France. On les épingle pour leur nationalisme étroit, pour le poids de l'Église, pour les atteintes à l'état de droit, pour leur refus d'accepter les migrants ou leur rejet du multiculturalisme. On les voit comme un frein à la construction de l'Europe. Et eux renversent ces accusations, c'est un mécanisme psychologique bien connu, et en font un objet de fierté. C'est ça aussi qui explique la lame de fond, et pour la droite classique, le défi est de taille.
Vous avez parlé de la chute du mur. Maximo, j'en profite pour rappeler un ouvrage qui va bientôt paraître avec vous, de vous, Jacques Rupnik, chez Odile Jacob, c'est 30 ans après la chute du mur. Il y a deux choses dans ce que disait Maximo. Il y a le volet identitaire, on va y venir, mais il y a aussi le volet économique et social. Effectivement, le PiS déploie énormément d'efforts pour le coup, pour développer cette politique sociale avec plein de choses. Une augmentation du salaire minimum, l'abaissement de l'âge du départ à la retraite, un 13e mois pour les pensions de retraite, enfin il y a énormément de choses. C'est ça la recette du succès, Jacques Rupnik?
C'est en grande partie ça. L'électeur polonais a certainement été sensible à d'autres arguments, y compris les arguments que vient de mentionner Marc Semo, c'est-à-dire une sorte de quête de dignité. On a pendant un quart de siècle, On était censé être les bons élèves, faut s'appliquer, faut se mettre aux normes européennes. Et je crois qu'il y a, voilà, il y a maintenant une affirmation, on en a assez d'imiter, on est d'être simplement des imitateurs, des bons élèves. Donc il y a en partie ça, mais il y a derrière, je crois, un choix tout à fait rationnel des électeurs. Ils ont beaucoup profité de la politique sociale. C'est un gouvernement droite nationaliste. Sur le plan, disons, culturel et sur le plan de ce qu'on pourrait appeler la politique identitaire, mais c'est un gouvernement de gauche, avec tous les guillemets que vous voudrez, pour sa politique sociale. Vous avez mentionné certaines des mesures, ils en promettent d'autres après les élections. La question qui est posée,
notamment quasiment le doublement du salaire minimum. On veut passer de 480 € mensuels à 916 €. On se demande même si la Pologne a les moyens de faire ça. Enfin, c'est gigantesque. On est quasiment sur un doublement.
Voilà. Ils ont profité. Beaucoup de gens avaient prédit des difficultés pour le PiS au pouvoir lorsqu'ils sont arrivés avec leurs promesses. Ils ont une conjoncture économique favorable. Ils ont beaucoup redistribué et l'économie a tenu le coup. Le Premier ministre Morawiecki est un banquier à l'origine, est un économiste, et pour l'instant ça tient. Mais ça tient uniquement parce que l'économie a connu une croissance formidable, et maintenant, comme c'est une économie très dépendante de l'économie européenne et de l'économie allemande en particulier, quand on est à croissance zéro en Allemagne, on s'inquiète en Pologne. Et on ne peut pas laisser filer les déficits, les promesses électorales, il faudra quand même les financer.
Roman Krakowski, sur effectivement la dimension sociale qui visiblement a l'air de profiter assez largement au PiS, puisque dans les sondages tout indique qu'il va gagner. Je demandais si l'économie polonaise pouvait tenir longtemps comme ça, si le PiS a les moyens de continuer sur cette voie de la politique sociale. Vous pensez que c'est le cas ?
Effectivement, il y a la période de croissance qui est extrêmement propice à ces politiques sociales.
Mais il faut aussi 5%, 5% aujourd'hui à peu près.
Oui, c'est extraordinaire. Mais et si vous allez aujourd'hui à Varsovie, c'est une ville extrêmement dynamique. Vous sentez une pulsation qu'on peut sentir à Berlin, Londres ou Madrid. Mais il faut aussi rappeler, j'ajoute à tout ce qu'a dit Jacques Rupnik, que cette croissance, elle est aussi dopée par les aides structurelles européennes. Un tiers du budget de l'Union européenne va au fonds structurel, dont pour les régions sous-développées, dont une partie conséquente se situe en Europe centrale. Donc il faut aussi rappeler ça.
Elle a largement profité de l'intégration.
Elle continue à en profiter.
Alors même qu'il y a de l'euroscepticisme en Pologne, c'est ça qui peut apparaître étonnant.
Il y a un euroscepticisme, mais il n'y a pas un sentiment, il n'y a pas une volonté de sortir de l'Europe. Les leaders polonais, hongrois ou dans d'autres pays de la région ont parfaitement compris qu'ils ont tout intérêt à rester dans l'Union parce qu'ils en profitent. Et une partie de leur réussite électorale tient à ça.
Marc ? Est-ce que, Jacques Rupnik, la force aujourd'hui du PiS, elle n'est pas aussi liée à la faiblesse de l'opposition ?
Oui, certainement. Elle est divisée, elle n'a pas de leader. Le seul leader plausible, c'est Donald Tusk, mais il était à la tête du Conseil européen, donc il était à Bruxelles.
Enfin, pardon, Jacques Rupnik, il y a un leader, elle s'appelle Malgorzata Kidawa-Blonska, qui est une ancienne porte-parole du gouvernement Donald Tusk. Oui. Elle est bel et bien là, c'est elle qui conduit la liste pour les législatives.
Je voulais dire, c'est ils ont changé de leader un mois des élections. Ça veut dire que la campagne ne marchait pas très bien. Faut dire que donc ils ont là cette personne tout à fait éminente et respectable. C'est pas ça, mais donc il y a une coalition qui s'était formée pour les élections européennes. Une très grande coalition. J'allais dire tous ceux qui veulent défendre une politique européenne alternative à celle du PiS. Ils avaient recueilli un score tout à fait honorable. Il y avait plus de 38%. Et on se disait à ce moment-là peut-être
45 pour le PiS. Derrière, quand même.
Mais il y avait l'idée qu'il y avait deux blocs et que le jeu pouvait être ouvert. Alors que
et pourquoi là ils viennent séparer ?
Ils viennent séparer. Il y a d'une part parce qu'il y a trop de divergences. La gauche veut affirmer qu'elle existe. Vous savez que aux dernières élections polonaises, donc en 2015, la gauche avait disparu complètement du Parlement. Elle n'était pas représentée au Parlement. Là, elle présente une coalition de trois partis de gauche qui est créditée d'une dizaine de pourcents, quelque chose comme ça. Et ils ne veulent pas faire la coalition avec la plateforme civique, qui sont des libéraux de droite. Donc l'idée qu'on est uniquement unis par notre opposition à Kaczynski, ça ne suffit pas. Et donc il y a deux oppositions. Mais la vraie question derrière ces élections, c'est est-ce que le PiS aura la majorité absolue ou est-ce qu'il sera obligé de former une coalition ? Parce que la dernière fois, il avait profité de la disparition de la gauche au Parlement et donc les sièges, la répartition des sièges avec 38% des voix, vous avez la majorité absolue. Mmh. Ça ne sera plus le cas cette fois-ci. Et donc là, si le PiS était obligé de faire une coalition, à ce moment-là, toute une série de choses qu'il promet de faire, pas sur le plan économique, mais sur le plan de la réforme judiciaire, par exemple, la taxe sur les... Là, il serait obligé de mettre de l'eau dans son vin. Il y aurait peut-être des freins, disons, à son élan.
Marc Semo et puis Roman Krakowski.
Alors, justement, est-ce que ce problème des oppositions, de l'absence d'une force de l'opposition, ce n'était pas le problème général par rapport à ces populismes, parce qu'on parlait de la Pologne, mais en Hongrie, c'est exactement pareil, chose, hein. Où on retrouve cette situation un peu... tragique, où l'on retrouve la gauche ou ce qu'il en reste, parce qu'elle est complètement
laminée,
qui se retrouve quasiment avec Jobbik, c'est-à-dire l'extrême droite qui sert de repoussoir, quasiment néo-nazi, qui sert de repoussoir à Viktor Orban, allié contre Orban. Est-ce que c'est pas finalement le point commun de ça, que la force de ces partis est telle que finalement il ne reste à une opposition que ou à disparaître ou à faire des alliances contre nature?
Roman Krakowski.
En partie c'est vrai, il y a aussi un autre paramètre qu'on devrait introduire dans le débat, c'est celui de la mobilisation de l'électorat. Parce que le premier parti en Pologne, c'est l'abstention.
C'est valable dans beaucoup de pays.
Oui. Mais il est vrai qu'en Pologne, l'opposition a du mal à mobiliser, alors que le parti au pouvoir, d'ailleurs en Hongrie, mais pour des raisons différentes qu'on évoquera probablement, ils arrivent à mobiliser les gens autour du discours identitaire, autour des prestations sociales qu'on promet, etc. Et l'opposition, c'est vrai, elle est laminée en Hongrie et elle a du mal à rebondir.
Est-ce que, Jacques Rupnik, vous parliez tout à l'heure de la question de la réforme du système judiciaire. C'est vrai qu'il y a à nouveau des ambitions, sachant qu'on a déjà réformé un certain nombre de choses et qu'on s'est déjà pris effectivement à ce système judiciaire. Vous allez nous expliquer justement ce qui a été fait et le projet en cours. Mais quand par exemple un Kaczynski parle aujourd'hui à propos de la Pologne d'un régime des juges, quand on nous explique que c'est le cas du ministre de la Justice, qu'il faut mettre absolument un terme à la politisation des juges. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur, effectivement, peut-être une forme de connivence entre le monde politique et le monde de la justice ? Est-ce qu'il y a effectivement des choses à remettre en place ? Et qu'est-ce qui a été fait par le pouvoir polonais, justement ? On se souvient qu'évidemment, l'Europe était vent debout contre la Pologne en déclenchant l'article 7 sur justement cette réforme judiciaire. Pourquoi finalement s'inquiète-t-on s'agissant de cette justice en Pologne ?
Oui, on a ce paradoxe d'un gouvernement donc du PiS qui est vent debout contre le pouvoir des juges, la politisation. Or, c'est ce pouvoir-là qui politise la justice, qui politise la question de la justice et qui s'ingère très très ouvertement dans la sphère de la justice. Ça a commencé dès son élection, dès décembre 2015, par l'attaque contre la Cour constitutionnelle, sur la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, mainmise du pouvoir sur la nomination des nouveaux juges, et ils ont nommé à la tête une personne qui, semble-t-il, est très très liée au pouvoir. Quand j'ai posé la question au président de la Cour constitutionnelle polonaise précédent, un éminent juriste polonais, quand je lui ai posé la question, alors, est-ce que cette nouvelle présidente, votre successeur, est-ce qu'elle ne cherche pas à limiter quand même les dégâts ? Il m'a répondu d'une phrase, Madame Untel n'a strictement aucune compétence pour exercer ce rôle. Elle n'est là que comme l'instrument du parti. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle polonaise. Donc, ça, c'était le premier enjeu, la bataille pour la Cour constitutionnelle, et c'est très important parce que la Cour constitutionnelle, évidemment, c'est le cadre que devaient respecter tous les acteurs politiques, et c'était un peu une limite, une contrainte pour le PiS, pour son programme de réforme législative. S'astreindre, justement, se débarrasser de cette contrainte, ça c'était une priorité. D'ailleurs, Kaczynski lui-même avait utilisé la formule, n'est-ce pas, du carcan judiciaire. Nous devons nous libérer de ça. Donc ça c'était très important, s'émanciper de la tutelle de la Cour constitutionnelle. Deuxième phase, c'était la Cour suprême. Et là, la tactique, c'est la même que Orban. On abaisse l'âge de retraite des juges, ce qui permet d'envoyer quelques centaines à la retraite.
Et puis,
on nomme des gens plus en phase avec le pouvoir actuel. Et c'est cette réforme-là qui s'est heurtée à la critique de l'Union européenne. Timmermans, le commissaire européen à l'époque, vice-président de la Commission, avait été très énergique, très engagé là-dessus. Là, on avait l'impression que la Commission européenne s'était réveillée. Elle avait laissé faire sous Orban dans la première phase du pouvoir Orban, le premier mandat d'Orban. Là, après 2015, surtout sous l'influence de Timmermans en particulier, cette question a été au centre, l'article 7 que vous avez mentionné. Donc il y a une procédure d'évaluation et donc là, de sanctions. On n'ira pas jusqu'à la suspension du droit de vote de la Pologne, mais c'est le processus qui compte, c'est la démarche. Et là, ils sont en train de préparer encore une autre réforme judiciaire. Et l'idée, c'est qu'il faut se débarrasser des juges qui sont les héritiers de la période communiste. Donc il y a le côté pouvoir judiciaire, mais derrière le pouvoir judiciaire, on combat les héritiers de l'ancien régime. Or, l'idée qu'il y ait des juges de l'ancien régime, des juges qui auraient, sous-entendu, combattu solidarité. Solidarité, il y a 40 ans. Imaginez un juge, donc de 1981, de l'époque du coup d'État d'Jaruzelski, qui serait encore en place. Tous ces gens, la plupart, sont à la retraite. Et donc, on mélange là deux choses. Lutte contre le pouvoir judiciaire et décommunisation en quelque sorte faire une justice efficace et propre. Bon, voilà, vous avez vu que là, il s'agit surtout d'une politisation de la justice par le pouvoir en place.
Roman Krakowski.
En fait, je pense que ce qui permet, parce qu'il y a un paradoxe dans tout ce qu'on est en train de raconter, où 30 ans après la chute du communisme, qui était un autoritarisme, le dernier grand autoritarisme européen, cette région bascule vers une autre forme d'autoritarisme. Parce que là, le renforcement du pouvoir de l'État sur la justice, on pourrait parler des médias. Et en fait, c'est extrêmement compliqué à comprendre comment on en arrive là 30 ans après. Et je pense qu'une une partie de la réponse est dans le retour aux années 90, où l'introduction du libéralisme a eu un impact extrêmement néfaste sur la population. Le poids de la transition en Pologne, en Hongrie, mais comme dans d'autres pays de la région, a été porté en grande partie par les populations. Et cette situation a amené des leaders qui aujourd'hui sont au pouvoir de dresser un constat en disant, voilà, en fait, le libéralisme met en danger la communauté nationale. Et donc, il faut s'en défendre, il faut renverser les valeurs, la hiérarchie des valeurs. On n'est pas contre la démocratie, on respecte les élections, on a les échéances là ce week-end, on respecte le débat parlementaire, mais la priorité est la défense de la nation. Et au nom de la défense de la nation, on peut s'attaquer au principe d'égalité et au respect des libertés. Donc s'attaquer à la justice, qui est quand même un des grands contre-pouvoirs qui permet justement dans l'espace public à chacun de s'exprimer comme s'il était égal. On s'attaque à la presse, on pourrait évoquer Neb Sabatchag, mais aussi d'autres journaux qui sont tombés dans le giron des grands groupes de presse en Pologne, en République tchèque aussi, avec Babiš ou en Hongrie. Donc, pour comprendre pourquoi on s'attaque à ces institutions, en fait, je pense qu'il faut revenir en arrière et remettre les choses dans une perspective de longue durée.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a très bien entendu lors d'un discours dont vous mentionnez un extrait dans votre ouvrage, un discours de Orban de juillet 2014, dans lequel il s'en prend précisément à la démocratie. Il dit « Elle n'a pas réussi à amener les gouvernements à œuvrer en faveur des intérêts de la nation et à reconnaître l'appartenance des Hongrois vivant dans le monde à leur nation ». Elle n'a pas permis de préserver le patrimoine national ni de protéger le pays et les familles de l'endettement. Et donc c'est ce manquement de la démocratie qui, du point de vue d'Orban, mais au fond de tous ces dirigeants-là, autorise, justifie le recours à l'illibéralisme. Marc Rémaud.
Oui, alors revenons quand même sur les aspects identitaires, sur cette manipulation de l'histoire. Parce que finalement, c'est à la fois un terrain facile, et c'est étonnant de voir que finalement les gouvernements qui l'ont précédé n'ont pas réussi à utiliser ça. Alors, sur quelle ficelle principale il joue, aussi bien en Hongrie qu'en Pologne, par rapport à ça?
On a évoqué tout à l'heure une volonté de, de redonner la grandeur à la nation polonaise ou ne pas être considéré comme une petite nation qui singe les recettes occidentales. Et ça passe aussi par le rapport à l'histoire où on se tourne vers les épisodes du passé où la Hongrie ou la Pologne a joué un rôle important dans le concert européen il y a une recherche d'un âge d'or hein, on le connaît avec Orban le président américain Trump qui se tourne vers les années 50 en Hongrie on se tourne vers la période de l'avant traité de Trianon qui a quand même été une catastrophe nationale hein, qui a fait perdre au pays une partie importante de sa population et de son territoire des grandes villes hein, qui se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière, une partie de la population aussi, une partie des Hongrois qui se sont retrouvés en dehors de l'État. Donc on se tourne vers une période où, d'avant cette catastrophe, où le pays aurait joué un grand rôle dans le concert des puissances et aurait connu une période de prospérité. Pour la Pologne, on se tourne vers la période où le pays, où les Polonais ont joué un rôle important. Et je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, hein, la résistance, on glorifie la résistance polonaise. Évidemment, on peut rentrer dans les débats sur le rôle des Polonais dans la Shoah, sur les compromis qui ont dû être faits, mais comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'Europe, y compris en France, ou sur la période d'avant les partages de la Pologne, où le royaume de Pologne-Lituanie a joué un rôle important. C'était un des plus grands royaumes continentaux. Et on n'en parle pas beaucoup en France, mais pour la Pologne, c'est extrêmement important.
Jacques Rupnik, cette dimension identitaire.
Oui, il y a la glorification de certaines périodes de l'histoire. C'est pas facile d'ailleurs de trouver les bonnes, parce que quand vous êtes comme la Pologne, un État qui disparaît de la carte à la fin du XVIIIe, qui réapparaît en 1920 et qui a 20 ans, et ensuite à nouveau est divisé par le pacte germano-soviétique et à nouveau sous la domination russe pendant 45 ans, c'est pas facile. Il y a un discours victimaire, c'est-à-dire que nous avons toujours été les victimes de l'histoire et nous sommes les avant-postes aussi qui avons protégé l'Europe. Ça, c'est le discours en Hongrie. Nous avons protégé l'Europe face aux invasions ottomanes. Les Ottomans sont arrivés jusqu'à Budapest. Quand le président tchèque se rend à Budapest, il dit à Viktor Orban qu'il est reconnaissant à Orban d'avoir construit la clôture, car une fois de plus, la Hongrie joue ce rôle de rempart. Voilà, vous nous protégez. Donc ça, on utilise un argument historique, bien sûr, Thomas, pour parler de la question actuelle qui est la vague migratoire. Et c'est vrai que la vague migratoire a été une sorte de catalyseur. Ça n'a pas créé une situation, mais ça a été un révélateur d'une situation, un accélérateur. Et soudain, la parole s'est libérée. Donc vous avez un discours sur ce thème de protection de l'identité nationale et protection de l'Europe. Nous protégeons notre nation et en même temps, nous protégeons l'Europe chrétienne face à une nouvelle invasion. C'est le terme qu'utilise Orban pour parler de la vague migratoire. Donc voilà. Et donc vous avez un discours qui se situe alors là, non plus seulement dans le contexte local centre-européen, mais qui s'adresse à l'Europe entière. Nous sommes les vrais défenseurs des valeurs européennes, alors que vous ne voyez l'Europe qu'à travers le marché et des normes juridiques.
Vous voilà. avez trahi le conservatisme voilà. chrétien, le vrai conservatisme chrétien voilà. d'une certaine manière.
Alors que vous êtes dans l'économisme et le judiciaire, vous êtes dans le libéralisme voilà, avec ses normes juridiques et avec le marché. Nous sommes dans la défense des vraies valeurs, etc.
Alors même que c'est grâce précisément à ce marché et au développement économique qu'on est capable de mettre en place ces politiques sociales aussi volontaristes.
Ça a été dit, ces pouvoirs-là profitent. quand vous avez 4% de votre PNB qui vient des transferts européens, vous faites défenseur de l'identité européenne, mais vous avez besoin pour régler les fins de mois des fonds structurels européens.
Roman Krakowski, puis ensuite on va écouter Hélène Lefrançois pour évoquer ce dessin, cette caricature de la semaine. Je vous en prie, Roman Krakowski.
J'ajouterai juste deux choses par rapport à ce que Jacques Rupnik vient de faire. Pologne ou Hongrie se considèrent aujourd'hui comme les remparts de l'Europe, mais ils placent, c'est drôle, de 2015 à partir de 2015 dans le récit d'histoire nationale. On a mentionné l'invasion turque, etc. Et de cette manière-là, ce qui se passe aujourd'hui dans la région permet d'inscrire la Hongrie ou la Pologne dans la continuité de justifier quelque part dans le récit national et de trouver à ces pays une place au sein de l'Europe. Nous ne sommes pas juste des parvenus, nous jouons un rôle actif, celui de défendre les vraies valeurs européennes auxquelles l'Europe occidentale a renoncé.
Mmh. 11h44 minutes, on va faire une petite pause. C'est l'heure de notre caricature tous les vendredis. On choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
En partenariat, bien sûr, avec Cartooning for Peace. Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors ce matin, vous allez nous parler d'un dessin qui aurait pu s'intituler « Fais des enfants et tais-toi ».
Oui, voilà une représentation quelque peu déprimante de la femme hongroise. Sur ce dessin, elle est présentée comme une véritable machine à faire des bébés. Ce n'est pas qu'une métaphore. Sa poitrine est barrée d'une fente qui sert à accueillir des pièces de monnaie et son ventre ressemble à la vitrine d'un distributeur automatique. Sauf qu'à la place des barres chocolatées, il y a des bébé, 4 pour être précise. À ses côtés, un homme grisâtre, qui représente Viktor Orban, passe un bras autour de son épaule. Ce geste paternaliste évoque la politique nataliste du leader hongrois, lui-même père de 5 enfants. L'idylle hongroise, c'est le titre de ce dessin, a été croqué par le dessinateur de presse néerlandais Joep Bertrams. Il a été publié sur la plateforme Kaggle Cartoons le 12 février 2019. 2 jours plus tôt, Viktor Orban avait annoncé une série de mesures destinées à soutenir la natalité. Une aide financière à l'achat d'un véhicule pour les familles nombreuses, un prêt pour les familles d'au moins 3 enfants et une exonération des impôts sur le revenu pour les mères d'au moins 4 enfants. On retrouve là les 4 bébés dans le ventre de la femme distributeur. Pour la Hongrie, cette incitation à faire des enfants est une question de survie. En l'espace de 30 ans, le pays a perdu presque 1 million d'habitants sur un total de 10,7 millions de Hongrois. La politique nataliste fait également partie de la politique nationaliste du Fidesz. En annonçant ces mesures, Viktor Orban avait déclaré « Nous avons besoin d'enfants hongrois compensés par des migrants ». C'est baisser les bras. Les femmes, et surtout les mères, sont donc l'avenir de la Hongrie. Mais dans ce pays où les femmes sont largement sous-représentées dans la sphère politique, la femme de ce dessin semble timidement exprimer un certain ras-le-bol. Elle a certes la tête baissée, mais son regard fixe l'horizon. Elle incarne peut-être ces femmes qui n'hésitent pas à descendre dans la rue pour protester contre la politique de Viktor Orban. En tout cas, elles étaient nombreuses dans les manifestations contre la loi travail au début de l'année. On a notamment vu passer une pancarte avec ce message ironique « Comment je fais des bébés si je dois faire des heures sup ?»
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on publie évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Réaction avec nos invités, à Jacques Rupnik, Roman Krakowski, sur cette politique nataliste d'Orban.
Il y a la question de la démographie, pas seulement en Hongrie, mais en Europe centrale, est absolument cruciale pour comprendre ce qui se passe. Parce que depuis 25 ans environ, il y a un transfert de population, une émigration d'Europe de l'Est vers l'Ouest. Ça concerne tous les pays, à des degrés divers, beaucoup moins pour la République tchèque, énormément pour la Bulgarie ou la Hongrie, où c'est plus de 20% de la population qui est partie, les pays baltes aussi. Et donc là, il y a un vrai problème, que vous avez une dépopulation, et pour des nations qui sont des petites nations, dont l'État est fragile, récent, contester parfois les frontières, etc. Et donc, il y a une angoisse démographique. La peur de la disparition de la nation et les projections démographiques qui sont faites pour 2050, etc., sont catastrophiques pour l'Europe du Centre-Est. Donc, c'est pas seulement que, économiquement, ils ont été conquis par l'Ouest, si j'ose dire, c'est qu'aussi que une partie de la population...
Démographiquement, ils vivent un effondrement. Ouais.
Et donc ça, cette angoisse démographique, Orban joue là-dessus, et cette politique nataliste, qui est l'écho de celle de Kaczynski en Pologne, c'est ça, nous devons en quelque sorte faire en sorte... Mais Orban, au lieu de faire ça, fait fuir les gens, avec sa politique... fait fuir les jeunes élites, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, 1,5 million de Hongrois sont partis vers les pays d'Europe occidentale, surtout les jeunes diplômés.
Alors, donc, c'est juste une incidente. C'est effectivement une chose que l'Europe de l'Ouest n'a jamais comprise par rapport à ces pays l'Europe de l'Est, c'est cette peur de la disparition de la nation. Alors pour la Pologne, bon, à la fois c'est le plus grand des pays de l'Europe de l'Est, mais c'est vrai qu'elle a disparu en tant qu'État pendant quoi, 3 siècles.
Plus d'un siècle.
Plus d'un siècle, oui. Un siècle. Les autres ont légitimement la peur de disparaître.
Et maintenant donc, que l'Europe est là, on est là pour les...
Ben, l'Europe les menace d'une autre manière. Et c'est ça, probablement, un des ressorts aussi de du succès des populistes.
Roman Krakowski, et puis ensuite j'ai une question précisément pour vous. Roman Krakowski, sur le dessin.
On a mentionné la question du déclin démographique. Effectivement, il faut rappeler les chiffres. Entre 89 et aujourd'hui, les pays de la région ont perdu entre 15 et 20% de la population. Certains pays, comme la Bulgarie notamment, ou la Roumanie, se vident littéralement de leur population. Les projections des Nations Unies à 2050 ou 2100 sont catastrophiques. Ces pays devraient perdre encore 20% de la population. Donc ce que fait Orban aujourd'hui, ça peut, du point de vue d'un Hongrois, s'apparenter à une solution. Il faut faire les enfants. Mais je voulais dire autre chose, c'est que ce qui se passe, on a parlé de la crise démographique, on parlait de la montée des populismes, ce qui se passe aujourd'hui dans la région peut nous dire quelque chose sur nous-mêmes, parce que l'Europe aussi est en train de vieillir. Sa part dans les échanges mondiaux est en train de diminuer. Donc les questions en fait, que se posent Orban ou Kaczynski ou d'autres pays de l'Europe centrale, on se les pose aussi chez nous. Sauf que dans cette région, ces problèmes sont amplifiés par l'histoire de cet espace. Et donc, ces pays ont des choses à nous dire et on devrait entendre, parce que les questions qu'ils se posent, on se les pose nous aussi. C'est, l'Europe centrale pourrait être une forme de laboratoire où on voit comme à la loupe des choses qui existent.
Ce qui pourrait nous arriver à l'ensemble de l'Europe qui nous concerne dans les décennies à venir. Jacques Rupnik, la Hongrie, Viktor Orban, si on regarde un peu tous les populismes dont on parle ce matin, c'est le premier à avoir émergé la victoire du Fidesz. La première victoire du Fidesz, c'est 98, celle qui permet à Orban d'arriver une première fois comme chef du gouvernement. Après, il va repartir, puis il va revenir. Mais c'est 98, donc c'est le premier. Pourquoi ? C'est le premier pays. Pourquoi, justement, la Hongrie est la première à basculer dans ce populisme dont on parle aujourd'hui ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulièrement propice ?
Ce qui était propice, je pense, c'était la recomposition politique des années 90. Et Orban, qui au départ, il faut toujours le rappeler, était un libéral, a vu qu'il y avait un champ qui s'ouvrait sur la droite, que le leader du Forum démocratique de l'époque, Antal, qui était le premier ministre, qui était un conservateur, voilà, conservateur modéré, disons, venait de décéder, et qu'il y avait une place à prendre. Et donc, il est allé là, par opportunisme, et quand il devient premier ministre en 98, il n'est pas l'Orban d'aujourd'hui. Donc, il y a eu un premier épisode Orban, où il montre qu'une droite, disons, nationale, conservatrice, mais elle n'est pas encore...
Très libérale.
Et qui reste libérale sur le plan économique. Orban, qui revient au pouvoir il y a presque 10 ans, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose parce qu'à ce moment-là, il est sur le thème de la rupture avec le libéralisme et les héritiers du communisme. Parce qu'il mélange les deux. Il dit la révolution de 89, puisqu'on est au 30e anniversaire, c'était pas une vraie révolution, c'était une entente entre des élites modérées de la dissidence avec des élites modérées de l'ancien pouvoir. Il n'y a pas eu la vraie rupture c'était à nous de la faire. Et donc il a commencé cette rupture antilibérale, disons, contre tout ce qui a été fait pendant la période de transition. Donc c'est un Orban nouveau, le thème de la rupture, radicalité dans le discours, défensif aussi au plan de la nation, et une certaine idée de l'Europe. Alors c'est là où est la nouveauté, c'est que quand il s'est vu accusé par les Européens, mais mis au banc de l'Union, il a retourné l'argument en disant « mais non, c'est moi qui suis le vrai défenseur de l'Europe ». Et son discours n'est pas sans écho dans une grande partie du pays européen. Regardez en Autriche, regardez en Italie, regardez au sein du PPE, ils ont mis du temps, ils ont mis 10 ans à voter une résolution contre le Fidesz et contre le pouvoir d'Orban au Parlement européen. Donc voilà.
Ils ne l'ont toujours pas exclu.
Non, il est suspendu et ils ne vont pas l'exclure parce que Mme von der Leyen a été élue avec les voix du PiS polonais et de Kaczynski et d'Orban. Elle a été élue de justesse, la présidente de la Commission, et donc elle va être redevable à ces deux protagonistes.
Roman Krakowski, vous êtes historien, profitons-en, on parle de l'émergence de ces populismes, mais en réalité, ces populismes, ils ne sont pas nés de rien. Et dans l'ouvrage que j'ai sous les yeux que vous avez écrit, Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde, point d'interrogation qui est paru chez Fayard, c'est très intéressant parce que vous remontez le fil précisément de ce populisme dans cette région-là, dans ces pays-là. Vous revenez notamment sur la question paysanne, la question agraire qui va précisément produire aussi un moment populiste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Vous expliquez ça très bien avec des partis paysans qui vont, juste après la Première Guerre mondiale, remporter un certain nombre d'élections, y compris d'ailleurs devant les partis communistes des pays en question. Donc en réalité, ce populisme-là qu'on voit aujourd'hui, il a une histoire longue.
Il a une histoire très longue et c'est une autre manière de réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui dans la région. On peut rester sur l'actualité. Dans ce cas-là, ce qui ressort automatiquement, c'est une forme d'exceptionnalité de ce qui nous arrive. Si on place les choses dans la longue durée, d'abord, il y a une raison. Ça se justifie parce qu'effectivement, dans l'histoire de l'Europe centrale et orientale, le fil populiste est très présent. Au XIXe siècle, un des grands foyers de la naissance du populisme comme mouvement se situe en Russie. Hein, donc, il y avait deux pôles, la Russie et les États-Unis à l'époque. Vous avez mentionné le mouvement agraire. Il y a toute une crise identitaire dans l'entre-deux-guerres. Face à une difficulté de gérer la question des minorités, les minorités qui représentaient à cette époque jusqu'à un tiers de la population du pays. Donc c'était un vrai problème. On fait appel à des recettes populistes. D'une certaine manière, le communisme pourrait être aussi qualifié par certains aspects de populisme parce qu'il pose la question du peuple et s'appuie sur la notion du peuple, certes au sens peuple ou peuple travailleur, donc c'est pas le même peuple que le Narodniki russe, mais il y a quand même une filiation. Donc ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui la région bascule vers le populisme, et est-ce qu'il y a des logiques de longue durée? En fait, c'est ça qui m'a intéressé. Et pour ça, j'ai fait appel à Ernesto Laclau. On a parlé de l'Amérique latine tout à l'heure, donc un sociologue argentin qui a une définition du populisme qui est extrêmement intéressante. Donc il parle du populisme comme une logique politique, c'est-à-dire une manière de sortir d'une situation de blocage systémique en réinventant la notion du peuple, ou en redéfinissant la notion du peuple au sens communauté politique à partir des groupes qui sont marginalisés par le système. Et cette lecture fonctionne pour l'Europe centrale et orientale. Je ne dis pas que ça fonctionne pour tout, mais en tout cas pour la région dont on parle, ça fonctionne parfaitement, parce que la crise oblige de revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire, dans notre contexte, la question de la modernisation. On a parlé du sentiment d'être périphérie de l'Europe, et la question de la constitution des communautés politiques dans la région.
Ouais,
et qui étaient vraiment deux grands sujets qui traversent l'histoire de la région jusqu'à aujourd'hui.
C'est une des choses absolument passionnantes dans votre livre, Roman Krakowski, c'est qu'effectivement, le populisme, peut-être qu'il faut d'abord et avant tout le voir comme une logique politique qui permet de créer du lien social, qui permet de construire des communautés politiques. C'est extrêmement intéressant. J'invite les auditeurs, évidemment, à se pencher dans son livre que j'ai pas encore fini, Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde, qui était paru chez Fayard. Un grand merci à vous. Jacques Rupnik, un grand merci à vous également. Vous concernant 30 ans après la chute du mur, ça sera chez Odile Jacob. Il faudra attendre encore un tout petit peu. Tiens, j'ai pas dit encore aux auditeurs, mais c'est tombé il y a quelques minutes. Le prix Nobel de la paix, eh bien, c'est Abiy Ahmed, donc le premier ministre éthiopien, qui l'a eu. C'est pas Orban, hein, donc voilà, vous êtes rassurés. Mais on aura probablement l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Dans quelques instants, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.